Bonsoir, comment allez-vous? Aujourd'hui, c'est la fête des grands-mères. Nous avons eu la fête des mères, puis des pères, puis des grands-mères créées par la marque de café. Je ne crois pas qu'il existe une fête des grands-pères. Mais existe-t-il une marque de quelque chose qui s'appelle grand-père? Je me demandais à quel produit je pourrais associer le seul de mes grands-pères que j'ai connu. Je ne trouve pas, mais je me souviens d'un conseil qu'il m'avait donné alors que je venais de me faire copieusement engueuler pour avoir fait signer un carnet de notes au dernier moment. J'avais prétexté un oubli, ce qui était faux et archi-faux. Non seulement je n'avais pas oublié ce misérable bulletin, mais je n'avais pensé qu'à lui pendant les vacances. Comment présenter ces horribles notes qui s'étalaient dans à peu près toutes les colonnes? Les commentaires des enseignants amplifiaient le désastre. Comme un passeport diplomatique, ce bulletin n'était donc pas oublié, mais caché et bien caché au fin fond d'un cartable fatigué. Quant à la petite séance de signature, elle était cachée dans ma tête. Elle prenait beaucoup de place, mais je la recouvrais d'un joli tissu, vous savez comme on le fait avec un canapé pourri. Jusqu'au matin de la rentrée, ou au pied du mur, j'ai bien été obligée de le montrer ce bulletin. À l'engueulot pour mauvais travail, s'est ajouté l'engueulot pour lâcheté. Et mon grand-père m'a alors dit « Tu sais ?» Quand tu te mets la tête dans le sable, tu te trouves en bonne position pour te faire botter les fesses.
Je m'appelle Garant, j'ai 6 ans et je voudrais savoir pourquoi les autruches mettent leur tête dans le sable. Merci.
Joli prénom, Garance. Est-ce que c'est vrai, Guilhem, le savent que les autruches mettent la tête dans le sable?
Ah, Garance, je suis désolé, je vais peut-être te décevoir, mais non.
Ah non?
Les autruches ne mettent pas la tête dans le sable. Et pourtant, on pourrait croire qu'elles le font. Alors, je vais te donner le fin mot de l'histoire. Il y a de cela très très longtemps, quand les premiers explorateurs observaient les autruches, ils remarquaient que, de loin, elles enfonçaient, pensaient-ils, leur cou dans le sable et qu'elles disparaissaient. Et ils sont revenus en Europe en disant « mais les autruches enfoncent la tête dans le sable pour se cacher ». En réalité, on sait maintenant ce qui se passe. Le moyen de défense de l'autruche, qui vit dans des déserts où la vue porte très loin, tu sais que c'est un gros oiseau, hein, Garance, l'autruche. Donc, qu'est-ce qu'elle fait pour se cacher? Elle s'aplatit sur le sol et elle étend le cou devant elle. Donc, en réalité, de loin, on a l'impression que le cou a disparu et qu'elle l'a probablement enfoncé dans le sable. C'est ce que pensaient les gens autrefois. Mais en réalité, le cou est allongé devant elle et ça lui permet d'être la plus petite possible et donc de quasiment disparaître de loin à la vue des prédateurs.
Donc le but, c'est bien de se rendre invisible, ça c'est juste, mais en revanche, de la plonger dans le sable quand elle est toute boue, non?
Non, parce que ce serait, comme on dit, contre-productif, parce que si jamais elle avait la tête dans le sable, elle ne verrait plus rien. Alors que là, elle a beau avoir la tête collée au sol, avec ses gros yeux qui sont absolument énormes. Vous savez que l'autruche a en proportion les yeux les plus gros qui existent.
Ah oui,
ils ont la taille d'une mandarine quand même. Hein. Eh bien, ces yeux-là, qui ont une vue excellente, continuent à observer de loin les prédateurs. Et si jamais le danger par hasard s'approche, trop, à ce moment-là, l'autruche se relève et prend sa course et elle est capable de courir à plus de 50 km/h.
Ça, c'est incroyable pour un oiseau. Elle fonce, hein.
C'est un record.
50 km/h pour une mémère autruche, dites donc, c'est pas mal. Je ne sais pas pourquoi je dis une mémère, c'est idiot. Parce qu'il y a des pépères aussi chez les autruches. Vous savez à combien va un cheval de course? 60 km/h pour certaines pointes. Et le lévrier espagnol, 70. Guilhem Le Saffre, vous le connaissez au Petit Bateau. Il est professeur de lettres et il était l'administrateur du Centre ornithologique d'Île-de-France.
Bonjour. Qui c'est qui a créé l'école? Car on m'avait dit que c'était Charlemagne. Mais ma maman m'a dit que ce n'était pas vrai. Merci. Gloria, 8 ans.
Je ne sais pas qui c'est qui a créé l'école, mais je sais que dans le livre que Patrick Boucheron a dirigé, Histoire mondiale de la France, je vois écrit 800. En l'an 800, Charlemagne est couronné empereur à Rome par le pape. C'est un début, Patrick Boucheron. Est-ce pour ça qu'il a créé l'école? Je ne sais pas.
Ah ben non, moi non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est très difficile pour les mamans d'avoir raison contre les chansons, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. Avant France Gall, on chantait la ritournelle. Depuis, depuis que l'école est libre, gratuite et obligatoire, depuis Jules Ferry, on a fait de Charlemagne le héros fondateur. Alors, comme souvent, ça ne repose pas sur rien. Effectivement, Charlemagne, c'est ce roi des Francs qui veut renouer avec Rome. Et il y avait déjà des écoles à Rome. Et puis, il réorganise, un peu avant 800 d'ailleurs, avant d'être sacré par ce qu'on appelle un capitulaire, c'est-à-dire une loi avec des chapitres. Il y a un chapitre sur les écoles cathédrales, donc les écoles pour les clercs, et puis l'école aussi palatine, c'est-à-dire l'école dans son palais. Il réorganise l'école dans son palais d'Aix-la-Chapelle.
Mais Patrick Boucheron, ce n'était pas l'école pour tout le monde.
Alors, il y a une histoire, qui est une histoire un peu fausse sans doute, qui est racontée par un des chroniqueurs qui dit le règne de Charlemagne, qui s'appelle Notker, le bègue, qui dit que dans cette école du palais, Charlemagne souhaitait aussi voir instruits les fils de pauvres. Ah. Et c'est ça le cœur de la légende, parce que Notker dit... Évidemment, les fils de princes étaient un peu désinvoltes, alors que les fils de pauvres qui étaient dans l'école du palais, ils apprenaient très bien. Et Charlemagne parcourt les rangs et dit « Ah bah voilà, ça, toi tu apprends bien tes leçons, tu es méritant, etc. » Vous imaginez pour l'école de Jules Ferry, c'est formidable une histoire comme ça. Donc c'est de là que naît cette idée que Charlemagne a inventer l'école. Mais la maman a raison, parce qu'au fond, l'école, ben, c'est difficile d'imaginer une société sans école. Donc, il y en a eu avant Charlemagne, mais vraiment le moment où ça se construit, le moment où ça s'impose, disons en Europe, c'est plutôt le XIIe siècle. Là, on peut même parler de révolution scolaire. Il y a des petites écoles partout. Et en particulier dans les sociétés urbaines. Alors, des grandes écoles, les universités, mais aussi des petites écoles.
Pour donc des enfants.
Pour des enfants.
Des garçons, j'imagine.
Toujours des garçons.
Patrick Boucheron, les chansons et l'histoire, ce sont des ennemis ou des amis ?
Ce sont des ennemis si on considère qu'on doit batailler contre les idées reçues, mais ça peut être effectivement des amis si on essaye de se rendre compte d'où elles viennent et qu'est-ce qu'elles chantent à nos oreilles. Et une chanson, ça vient jamais de nulle part. À la fois, ça dit quelque chose du sujet qu'elle raconte et ça dit quelque chose du temps où on la chante. Donc, moi, j'aime bien partir de ces chansons. Voilà. Donc, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école ? Bah, d'une certaine manière, ça dit quelque chose de notre rapport à l'école aujourd'hui.
Merci Patrick Boucheron et restons dans le ton des chansons des années 60.
Un point précis sous le tropique. Soleil, exactement, juste en dessous. Dans quel pays, dans quel district, c'était tout au bord de la mer. Depuis, j'ai oublié laquelle, sous le soleil, exactement, juste en dessous. Était-ce là, Nouveau-Mexique, vers le Cap Horn, vers le Cap Vert? Sous le soleil, exactement, juste en dessous. C'est sûrement un rêve érotique. pas à côté, pas n'importe où. Sous le soleil, exactement, juste en dessous.
Sous le soleil, exactement, chanson de Serge Gainsbourg chantée par Anna Karina, chanson du film Anna, dont une séquence a été tournée sur la plage de Deauville en 1966. Et l'année dernière, 52 ans plus tard, une plaque a été posée sur les lieux du tournage, face à la mer, exactement.
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe des petits bateaux, des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir si c'est le même aluminium avec lequel on fait les avions et les canettes. Merci. Au revoir.
Bonsoir Zoé. Nous avons proposé ta question à Claude Risse, vice-président de l'Institut pour l'histoire de l'aluminium et ancien directeur du département filage, bâtiment et distribution de Pechiney. Claude Risse.
Oui, bonsoir Zoé. Je vais te faire une réponse qui va peut-être t'étonner un peu, parce que la réponse est oui et non. Oui, parce que c'est toujours le même aluminium de base. Ce qui est important, c'est de base. Mais en fait, on n'utilise que très rarement l'aluminium seul. On l'utilise sous forme d'alliage. Et c'est la raison pour laquelle c'est non, parce qu'on ne va pas utiliser du tout les mêmes alliages pour les avions et pour les canettes. Pour les avions, de quoi a-t-on besoin ? On a besoin d'un métal léger, d'un métal résistant à la corrosion, c'est bien évident. Mais aussi d'un métal qui s'usine, qui a des propriétés mécaniques très élevées, et puis qui résiste aux conditions sévères de fatigue auxquelles sont soumis les avions. Ça n'est pas le cas des canettes. Dans le cas des canettes, on a besoin d'un métal, il est toujours léger, l'aluminium, j'y reviens pas, mais on a besoin d'un métal qui soit très malléable, parce qu'on le torture beaucoup pour faire la boîte pour l'obtenir, la boîte de Coca-Cola ou de Pepsi, on l'emboutit d'abord, et puis une fois qu'elle est emboutie sous forme d'une première boîte, on va l'étirer. Les Américains disent on la repasse pour l'amincir encore et diminuer son épaisseur quasiment par deux. Juste pour vous donner une image, si la boîte ne contenait pas du gaz dedans, une fois qu'elle est remplie, elle ne tiendrait pas debout toute seule.
Elle serait molle ?
Ouais. C'est pour ça qu'on arrive à avoir des boîtes aussi fines. On part d'un métal en gros 0,25 mm et au point le plus bas, on est à 0,11, 0,12, 0,13 mm.
Voilà.
Et pour obtenir ces propriétés spécifiques demandées par les avions d'une part, les canettes d'autre part, on va faire deux alliages différents. Pour les avions, ce sont des alliages pour l'essentiel deux catégories, des alliages d'aluminium. L'aluminium, c'est toujours 95%, voire plus, de la composition, auquel on va ajouter du zinc, du magnésium et ou du cuivre. Pour les canettes, au contraire, qui sont soumises, on l'a vu tout de suite pour la boîte, mais aussi pour le couvercle, parce que le couvercle, il faut faire le rivet pour mettre le petit anneau dedans, et puis le rivet, une fois formé, on va l'aplatir brutalement. On va utiliser à ce moment-là, pour le corps, on va utiliser un alliage aluminium et manganèse, et pour le couvercle, ce sont plutôt des alliages aluminium et magnésium. D'où ma réponse liminaire peut-être un petit peu rapide. Oui, c'est toujours de l'aluminium. Non, ce sont jamais les mêmes alliages.
Mais oui, elle est un petit peu rapide, mais c'est ce que nous vous demandons, Claude Risse, d'être un petit peu rapide au petit bateau. C'est peut-être pour ça qu'on dit un zinc d'ailleurs pour un avion. C'est amusant parce que quand Claude Risse est venu à la maison de la radio, maison de Radio France maintenant, il nous a parlé de la construction de la maison de Radio France et de l'aluminium. Il était élogieux sur sa construction originale.
Bonjour, c'est Mathieu. J'aimerais savoir, est-ce que dans les enquêtes policières, l'ADN meurt ? Ou bien, est-ce qu'il peut servir plus longtemps ? Merci, au revoir.
Bonsoir Mathieu, j'adore ta voix. Mathieu, nous avons proposé ta question à un policier, un ancien responsable des services de police technique et scientifique au sein de la police judiciaire toulousaine. C'est compliqué ces histoires d'ADN, Patrick Rouget, que demande Mathieu.
Alors Mathieu, il faut que tu saches que notre corps est composé de cellules, que chaque cellule comporte un noyau, c'est une sorte de cerveau de la cellule, ce noyau, et qui renferme ce long filament en forme de double hélice qu'on appelle ADN, acide désoxyribonucléique. Donc cet ADN est organisé en chromosomes, hein. Leur nombre est constant égal à 23 paires, et la moitié de chaque paire vient de la maman et du papa. Donc, nous trouvons cet ADN dans toutes les cellules vivantes du corps humain. Le sang, le sperme, la salive, le bulbe des cheveux, tout ce qui est vivant. On le trouve aussi dans les dents, dans la moelle des os, etc. Donc, l'ADN, en fonction où on le trouve et où on le recherche, il peut durer très longtemps ou être très fragile. Si, par exemple, sur un support, dans une enquête criminelle, on a de l'ADN qui est passé par de la terre ou qu'il y a de la moisissure, cet ADN-là va vite se détruire. Et on va être embêté pour l'extraire et l'analyser. Par contre, l'ADN qu'il y a dans les dents ou qu'il y a dans les os va se garder comme le corps humain, et même après la mort. Et là, je peux citer une affaire qui a défrayé la chronique en son temps, quand on a voulu faire une comparaison d'ADN avec Yves Montand. Voilà, on a exhumé le corps à la demande de la justice et on a comparé l'ADN, puisqu'il s'agissait d'une paternité, et on fait de l'ADN et en criminalistique et en paternité pour savoir qui est le père d'un enfant en général. Et là, on a fait la comparaison avec l'ADN qui était dans les os du cadavre de Yves Montand. Donc, en fonction du support où il est, il peut être vite détruit ou alors rester jusqu'après la mort.
Patrick Rouget, donc ancien directeur de la police technique et scientifique au SRPJ de Toulouse, a écrit sur les traces de la police scientifique et s'est édité chez Le Pommier.
Our fallen hearts will lie in a bed that I will make out of stone, out of clay, out of the hearts that I will break. Breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know no end, no heart it cannot mend, no skin it cannot feel.
Captivante et mystérieuse, Jeanne Adède a écrit le journal Libération après sa victoire de la musique. Vendredi prochain, nous serons le 8 mars, c'est-à-dire le jour des droits de la femme.
Bonjour, je m'appelle Martin. J'aimerais savoir pourquoi c'est surtout les hommes qui font des bandes dessinées. Merci, au revoir.
C'est sympa de poser cette question surtout pour un homme. Jessica Cohn, vous êtes chercheuse en histoire du dessin, surtout les hommes. Alors, je suis en train de penser à des femmes. J'en ai que deux, c'est pas beaucoup.
Il y en a plus. Mais d'une certaine manière, Martin, tu as un peu raison. Parce que c'est surtout les noms des hommes dessinateurs de bandes dessinées qu'on a retenus. Mais en réalité, quand on se met un petit peu à chercher, aux États-Unis comme en France et sûrement dans d'autres pays que je connais moins, un certain nombre de femmes ont dessiné et ont fait du dessin leur métier, ont gagné leur vie avec le dessin. Il faut savoir que, en France par exemple, à partir des années 30 et jusqu'à la fin des années 60, il y a autant de journaux pour les petites filles que pour les petits garçons. Et que les dessinatrices sont souvent embauchées pour faire des dessins dans les journaux pour petites filles. En fait, si on a oublié leur nom, c'est parce que l'histoire de la bande dessinée a été écrite après coup. Elle a été écrite par des hommes qui se rappelaient les bandes dessinées qu'ils lisaient quand ils étaient petits.
Ah oui.
Et les bandes dessinées qu'ils lisaient, eux, c'était les bandes dessinées pour garçons, le plus souvent écrites par des garçons. Il y a aussi eu des changements historiques. Après la Seconde Guerre mondiale, les femmes dessinatrices se sont quand même fait plus rares dans le marché du dessin. En France, c'est parce que le milieu de la bande dessinée s'est beaucoup rapproché de celui de la presse et du journalisme. Et c'était un milieu très fermé, lié aussi à celui de l'artisanat, qui acceptait peu la présence féminine. Et les femmes qui faisaient jusque-là des bandes dessinées se sont souvent reconverties uniquement dans l'illustration. Ou alors on fait de la bande dessinée, mais dans des journaux qu'on n'a pas l'habitude d'aller voir pour chercher de la bande dessinée. Dans les journaux féminins, par exemple, ou dans les hebdomadaires ou les quotidiens généralistes.
Comme Claire Bretéché dans ce qui était le Nouvel Observateur à l'époque.
Par exemple. Encore qu'elle, c'est un nom plutôt connu. Mais on peut citer d'autres personnes, comme Suzanne André, qui est une dessinatrice belge, qui a fait une histoire des travailleurs dans un quotidien belge socialiste.
Et je pensais aussi, pendant que vous parliez, Jessica Cohn, à Florence Sestac.
Eh ben, Florence Sestac, Claire Bretéché, c'est les deux noms qui émergent à partir de la fin des années 60 et qui montrent que la donne a changé. Que les femmes peuvent de nouveau se faire connaître dans le milieu de la bande dessinée. Il se passe la même chose au même moment aux États-Unis, avec des personnes comme Aline Kominsky ou Trina Robbins, qui commencent à faire de la bande dessinée alternative, ce qu'on appelle de la bande dessinée underground.
Mais sur le devant de la scène, c'était donc surtout des hommes qui dessinaient donc des histoires d'hommes.
Exactement. Et en fait, ça a toujours été difficile pour les femmes de s'imposer dans le milieu de la bande dessinée. Surtout parce qu'on a aussi toujours confié aux femmes les tâches les plus subalternes, et puis on les a laissées faire ces tâches subalternes. Notamment coloriser les planches, faire le lettrage. Deux exemples assez célèbres pour ça, c'est d'abord le cas du couple de Belges, Fred et Liliane Finken. Fred et Liliane Finken dessinaient ensemble.
Et elle, on la connaît pas. On connaît Fred, mais pas elle.
Alors, quand l'éditeur de Fred et Liliane Finken écrivait des lettres au couple, il n'écrivait qu'au mari. Pourtant, ils dessinaient ensemble. Mais ils étaient payés de la même manière. C'est déjà ça. Par contre, Nin Culliford, la femme de Pierre Culliford, c'est-à-dire Peyo, l'inventeur des Schtroumpfs, elle était sa coloriste et c'est elle qui a décidé de la couleur bleue des Schtroumpfs. Et je pense qu'elle n'a jamais été rétribuée pour cette découverte ou cette création. En tout cas, aujourd'hui, la situation reste un peu compliquée pour les femmes dessinatrices de bandes dessinées. D'un côté, dans les écoles d'art, il y a désormais plus de filles que de garçons qui font des études de bandes dessinées. Mais en même temps, ce sont presque toujours des hommes qui sont récompensés dans les festivals. Ce sont presque toujours des hommes dont on cite le nom ou qu'on invite pour en parler. Et quand une femme dessinatrice arrive chez un éditeur, on lui demande souvent de se conformer à un type de dessin, ce qu'on appelle la BD girly, comme si elle était incapable de dessiner autre chose sous prétexte qu'elle était une femme. Et d'une manière générale, comme le métier de dessinateur est en train de se féminiser, malheureusement, de manière automatique, il se paupérise aussi. C'est-à-dire que les auteurs sont aussi de moins en moins bien payés.
« Les petits bateaux sont terminés pour ce soir. Vous pouvez télécharger cette émission, vous pouvez la réécouter sur franceinter.fr et revenir dimanche prochain à partir de 19h30. Merci à, par ordre alphabétique des prénoms, Antoine Gomez, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Marjorie de Voucou, Noël Bréham et tout de suite Denis Chessou.